et je m'approcherai de vous. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Approchez-vous du Seigneur et je m'approcherai de vous. C'est dans Jacques, chapitre 4, verset 8. Mais je lirai à partir de verset 7 jusqu'au verset 10. Ce sont les quatre versets que je vais vous lire ce matin. Et on va essayer de comprendre vraiment la volonté du Seigneur à travers ces quatre versets. Alors, je commence la lecture. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Jusqu'ici notre lecture. Ça fait maintenant 19 ans que j'ai été appelé par le Seigneur pour le servir. Et ce que moi j'ai compris, c'est que lorsque nous faisons quelques pas, le Seigneur fait des grands pas pour venir vers nous. Si nous faisons quelques efforts pour nous approcher du Seigneur, Dieu est présent à nos côtés pour nous pousser. Lorsque nous sommes sans force, il est là pour nous soutenir, pour nous accompagner. Et là, j'aimerais lire verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, obéissez à Dieu, résistez au diable. » Oui, parce qu'il y a une réalité invisible. Ben, le diable est là. Le diable est là. L'ennemi est là pour nous faire tomber. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Oui, le but, l'objectif, le travail du diable, c'est de nous diviser. C'est de dresser un mur entre Dieu et nous. Et il utilise toutes sortes de moyens pour nous éloigner de Dieu. Il utilise des ruses, des tromperies pour qu'on se sépare de lui. Et en parlant des ruses du diable, j'aimerais aussi vous partager dans Matthieu 13, sur le parabole du semeur, où je vous avais déjà partagé dans l'année, en 2018, une de mes prédications sur ce parabole du semeur. Vous savez que la semence a été tombée sur le long du chemin, premièrement. Deuxièmement, c'était dans les endroits pierreux. Troisièmement, c'était parmi les épines. Et puis, quatrièmement, dans la bonne terre pour porter beaucoup de fruits. Et là, on voit un petit peu les ruses du diable. Sur le long chemin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'un homme écoute la parole de Dieu, la parole du royaume de Dieu, il ne comprend pas. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Voilà donc ce que fait le diable, l'ennemi. Même si nous pouvons écouter la bonne parole, la vérité, la réalité invisible est là. Le diable enlève tout de suite dans notre cœur. La parole semée dans les endroits pierreux, c'est quoi? C'est il y a des gens qui entendent la parole de Dieu et qui la reçoivent. Qui la reçoivent avec beaucoup de joie. Ça veut dire qu'il y a des gens qui entendent et qui sont convertis, ou même je dirais, ils ont fait beaucoup de pas auprès du Seigneur. Il y a un zèle qu'on peut voir chez cette personne-là. Il peut avoir des empressements, des enthousiasmes pour servir le Seigneur, mais il n'a pas de racine. Il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance, de continuité. Et dès que survient, par exemple, une tribulation, une épreuve ou une persécution, on abandonne vite Dieu. Parfois, quelqu'un me disait encore cette semaine, c'est vrai que j'ai entendu pas mal de personnes qui s'éloignent de Dieu. Par exemple, quelqu'un qui était malade, qui était mourant, qui a prié au Seigneur pour que le Seigneur le guérisse et il ne l'a pas guéri. Alors, à cause de cet non-exaucement de prière, il s'est éloigné de Dieu. Ça arrive aussi, des tribulations, des persécutions. Lorsque Dieu ne nous répond pas, on pense que Dieu n'existe pas. Même si on était touché par la grâce à un moment donné, parfois, quand nous n'avons pas de racines ancrées en Dieu, dans la parole de Dieu, notre foi est déboussolée, déstabilisée. Voilà ce que fait le travail de l'ennemi. Et puis, il y a la semence qui est tombée dans les épines. C'est celui qui entend la parole, mais qui, les soucis du siècle et la séduction des richesses, étouffent cette parole. Parfois, nous sommes tellement déboussolés par tout ce que nous devons faire dans la vie, que cette parole que nous avons entendue, on l'oublie et la rend infructueuse. Voilà un petit peu le travail de l'ennemi. Même si nous avons entendu cette bonne nouvelle, même si nous étions enthousiastes, même si on était prêts à s'engager pour Dieu, on est vite découragé à cause de toutes ces raisons. Et le diable crée ce genre de mur entre Dieu et nous. Parfois, les gens me disent, tu sais, j'ai été beaucoup découragé à cause de telle ou telle personne dans l'Église. Tu vois, j'ai même pas été découragé dans le monde, mais c'est même dans l'Église même que j'ai été découragé. C'est vrai, le diable aussi utilise des personnes pour nous décourager, pour nous éloigner du Seigneur. Et cet épisode me rappelle toujours cette histoire avec Marc, dans Marc chapitre 10, où Jésus arrive avec ses disciples à Jéricho. Et autour de Jésus, il y avait une grande foule. Et là, il y avait un fils de Timée qui s'appelait Bartimée, un mendiant, un aveugle. Il était assis au bord du chemin. Et il a entendu que Jésus était tout près. Alors, il avait déjà entendu ce qu'il a pu réaliser. Alors, il se mit à crier et il dit, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Et là, les personnes qui étaient autour de lui, qui avaient déjà entendu, qui avaient déjà vu Jésus réaliser plein de miracles, qu'est-ce qu'ils font? Ils le reprennent. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. On peut avoir des découragements par les personnes qui sont autour de nous. Et là, au lieu de se décourager, il aurait pu se décourager en se disant que voilà, les gens, déjà, je suis aveugle, mais... Et puis, les gens me critiquent, donc je me tais. Non, il ne s'est pas tué, non. Il criait beaucoup plus fort en disant, « Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. » Il a persisté. Il a continué à crier. Et là, Jésus s'arrêta et dit, « Appelle-le. » Et il lui dit, alors, ce qui est intéressant, c'est que les gens, à ce moment-là, ils viennent vers l'aveugle et lui dit, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Parfois, lorsque nous sommes dans la persistance, dans la continuité, lorsque dans la persévérance, les gens aussi peuvent transformer. Ceux qui étaient là pour le blâmer, ils peuvent aussi l'aider. Les gens changent. Et puis l'aveugle jette son manteau. Vous savez ce que représente un manteau pour un aveugle? Pour dormir, ça sert, pour se réchauffer. Pour un aveugle, le manteau reste son bien le plus cher. Et là, il jette son manteau. Il se lève d'un bond et il va vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, ce qui veut dire maître, mon maître, lui répondit, ça veut dire déjà, après, juste le fait d'avoir entendu Jésus comme celui qui a fait tellement de choses, et il a déjà peut-être entendu l'enseignement, lui permettait de l'appeler comme le maître, mon maître. Ce n'est pas son maître, mon maître. Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue, que je recouvre la vue. Voilà son vœu le plus cher. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Il n'a pas dit, va, tu es guéri. Il a dit, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivi Jésus dans le chemin. Intéressant. Dieu guérit son être intérieur et son physique est guéri. Le handicap qu'il avait a été guéri. Ensuite, il se met à le suivre dans le chemin. Déjà, il l'avait appelé comme mon maître et il le suit. Voilà donc un bon exemple où, malgré les obstacles, malgré les murs de séparation que le diable peut mettre entre Dieu et nous, malgré les personnes qui nous gênent, on peut continuer à aller de l'avant. C'est vrai que l'Église, ou peut-être les personnes qui peuvent être nos obstacles, peuvent exister. Mais il faut aussi croire que l'Église n'est pas parfaite. C'est un lieu où les pécheurs viennent pour progresser ensemble. C'est un lieu où nous devenons disciples. On n'est pas déjà disciples. On devient, on progresse, on sanctifie. On devient des gens sanctifiés. On devient des gens plus matures. Il y a des gens immatures. Quand je vais chez des personnes, je ne regarde pas forcément les saletés de chaque maison, hein, n'est-ce pas? Et puis d'ailleurs, j'en suis sûr que même dans les maisons très propres, il y a des saletés. Les maisons les plus propres, je dirais, chez Wardia, ou encore chez Edith, là-bas. Voilà. Hein, les deux maisons où j'ai vraiment été épaté par leur propreté. Mais j'en suis sûr que si je prenais mon gant à moi, et que si je prenais, je cherchais des poussières, je trouverais. Donc, c'est vrai que si on se focalise sur des poussières, on pourrait se dire que, voilà, cette maison est sale. Pareil pour l'Église. Il y a tellement de gens bien, il y a tellement de gens qui veulent progresser ensemble. Au lieu de voir ces personnes qui sont chères, qui sont vraiment des enfants de Dieu, on peut regarder du côté où voilà, les gens qui sont encore immatures, qui sont en train de progresser aussi, mais avec leur vitesse. Et là, si on regarde que des mauvais côtés, on peut vite se décourager. L'Église, c'est ça en fait, il y a toutes sortes de personnes. L'Église, si vous cherchez une Église parfaite, il faut mourir. Il faut aller auprès du Seigneur. Hein? L'Église qui est au-dessus, dans les cieux, là, comme ils sont déjà avec le Seigneur, c'est une Église parfaite. Mais ici, l'Église, sur la terre, reste encore imparfaite. Je disais que soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, oui. Faisons sauter tous ces murs de séparation avec le Seigneur. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Il faut savoir résister à toutes ces ruses du diable et il fuira loin de vous. Parce que nous avons le Christ, nous avons la puissance de Dieu avec nous. La deuxième chose qu'on puisse faire pour nous approcher de Dieu, j'aimerais vous lire verset 8, « Approchez-vous de Dieu ». Et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Homme, celui qui a le cœur partagé. Nettoyez vos mains. C'est des signes extérieurs. Purifiez vos cœurs. C'est ce qui se passe à l'intérieur de l'homme. Voilà donc, on doit bien sûr, avoir ce processus de repentance vis-à-vis du Seigneur, non seulement pour les choses qui sont visibles, mais aussi qui se passent à l'intérieur. Vous savez bien que notre cœur est tortueux. On peut vraiment avoir plein de pensées négatives, et même plein de pensées qui sont à l'encontre de Dieu. Et tout cela, bien sûr, il faut être purifié. Il faut être purifié. Nous sommes, bien sûr, justifié une fois pour toutes lorsque nous avons accepté le Christ, mais ce processus de purification doit se faire tous les jours de notre vie pour progresser, pour que nous puissions nous approcher de Dieu et que Dieu nous s'approche de nous. Il est dit encore, hommes irrésolus, ceux qui ont le cœur partagé. Celui qui a le cœur partagé est quelqu'un qui est inconstant dans toutes ses entreprises. Celui qui a le cœur partagé est quelqu'un qui a deux cœurs. Autrement, c'est quelqu'un qui a deux maîtres dans son cœur. Je vous avais dit tout à l'heure, cet aveugle, ce Bartimée, qui a appelé Jésus « mon maître ». Dans certaines personnes, il peut y avoir deux maîtres, c'est vrai. Tout d'abord Dieu, parce que nous avons accepté une fois le Seigneur, mais il peut y avoir un autre maître qui s'appelle le moi. Le moi. Le moi devient le centre de ma préoccupation. Je remplace Dieu. C'est moi qui deviens le maître de moi-même. C'est ça le message que le monde nous dit. Tu es le maître de toi-même. Tu dois devenir le maître de toi-même, en fait. Tu décides ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux, en fait. Nous, les Français, moi y compris, hein, nous n'aimons pas du tout quand on nous oblige à faire quelque chose. Hein? C'est pareil avec mes filles. Quand je les oblige à faire quelque chose, je dis non. Pourquoi? Hein? La première chose, c'est qu'il faut d'abord qu'on discute. Hein? Et pourquoi? Parce qu'on aime bien la liberté, on aime bien notre indépendance, on aime bien réfléchir, on aime bien déjà contredire les choses, protester et même dire des antithèses. Ça, c'est vraiment c'est quelque chose qui est très naturel. Ça vient naturellement. On n'est pas docile. C'est vrai ou pas? Il y a une bonne chose. Quand nous prenons notre propre décision, c'est vrai, ça nous permet de grandir, ça nous permet d'être responsable. Mais le problème, c'est qu'on devient allergique aux ordres de Dieu. Aussi, il faut avouer, on devient allergique aux ordres de Dieu. Parce que je veux contrôler ma vie. J'ai le contrôle sur ma vie. Ce n'est pas Dieu qui me contrôle. Ce n'est pas Dieu qui est mon maître. C'est moi le maître. On dit souvent que c'est le diable, voilà, etc. Non, c'est moi. C'est le moi qui devient l'idole de moi-même. Hein? Non mais, moi j'ai deux cultures. Je suis coréen, mais en même temps je suis français. Et je sais ce qui se passe chez les Coréens. Ils sont assez dociles. Quand on leur dit de faire quelque chose, ils le font vraiment. Quand je leur disais, écoutez, j'aimerais faire 2 semaines de prière avec vous tous les jours à 6h du matin, ils sont là à 6h du matin. Non mais c'est vrai. Si je disais ça au j'ai essayé. dans l'ancienne église, j'ai essayé avec le groupe de jeunes, j'ai dit, écoutez, on va partir faire un voyage missionnaire, donc moi je veux vous voir à 6h du matin. Hein, parce qu'on doit faire plein de choses. Bon, il y avait seulement 20% qui étaient là, mais bon, il y avait quand même des gens qui étaient présents. Voilà. Mais il nous disait, mais pourquoi? À chaque fois, il faut vraiment dire les raisons. Il faut comprendre. D'abord, les Français ont besoin de comprendre avant de faire quelque chose. C'est bien de vouloir comprendre. Mais même si nous avons compris, on ne le fait pas. Parfois. C'est ça le problème, en fait. Quand notre cœur est partagé, quand il y a Dieu et moi qui vacille entre les deux, le chemin vers Dieu devient difficile. Dans 1 Chronique 28, il est dit « Apprends à bien connaître le Dieu de ton Père et adore-le d'un cœur sans partage. » Il faut apprendre à bien connaître Dieu. Hein, comme si nous comprenons bien Dieu, on peut avancer. Et puis, adore-le d'un cœur sans partage et d'un esprit bien disposé, car l'Éternel regarde jusqu'au fond des cœurs. Il ne regarde pas seulement notre apparence, il ne regarde pas seulement ce que nous faisons, mais il regarde aussi dans notre cœur. Et il discerne toutes les intentions. Ça fait peur un peu, non? Si tu t'attaches à lui, il interviendra en ta faveur. Mais si tu te détournes de lui, il te rejettera pour toujours. Oh, ça fait peur. Mais si nous nous attachons à Dieu, si nous nous approchons vers Dieu, ben il interviendra en ma faveur. Dieu nous rappelle combien il est important de nous attacher à Dieu. Dans le Nouveau Testament, il est dit aussi, il y a aussi un verset qui parle de ça. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit. Un cœur droit, sans partage. Avec la pleine assurance que donne la foi. Le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. Je vous ai partagé l'importance de la repentance, de purifier notre corps, notre pensée, notre cœur, d'avoir un cœur sans partage. Et c'est vrai que sachez que personne ne peut être pur à 100%. Hein? Je pense que personne n'est pur. Mais Dieu regarde nos efforts. Dieu aimerait, c'est pour ça que Dieu aimerait que nous ayons une vie renouvelée chaque jour. Une vie renouvelée chaque jour pour progresser, pour avoir une vie sanctifiée. Je continue la lecture. Versets 9 et 10. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil. Et votre joie en tristesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est en train de dire que il faut connaître ton état de pécheur, ton état de malheur. Quand il est dit « Sentez votre misère », ça me rappelle l'histoire du collecteur d'impôts qui se tenait dans un coin retiré. Il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Il était dans un coin perdu. Et il se frappait la poitrine et se murmurait en disant « Oh Dieu, aie pitié du pécheur que je suis ». C'est ça, sentir notre misère, sentir qui je suis vraiment, savoir qui je suis. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Parmi les apôtres, il y a un apôtre qui a pleuré après avoir péché. C'est Pierre. Après avoir renié trois fois, il s'est souvenu en écoutant le coq chanter deux fois, et il s'est souvenu qu'avant la parole de Jésus qui disait « Avant que le coq ne chante deux fois, tu m'auras renié trois fois. » Et ensuite, il fondit en larmes. Il fondit en larmes. Savoir pleurer à cause de notre péché est très important. Ça prouve que nous sommes humbles, nous devenons humbles. Il faut savoir, s'humilier davantage, non pas être des gens hautains, orgueilleux. Des gens hautains, orgueilleux, ou qui ont le moi à l'intérieur comme le maître, c'est celui qui construit sa maison sur les sables. Mais nous devons construire notre maison sur le roc, sur le Jésus-Christ, dans l'humilité avec le Seigneur. Le mot pour « abaissez-vous » décrit l'humiliation volontaire. Hein. Donc là, dans verset 10, il est dit « humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera, il vous élèvera. » Avoir une bonne conscience comme quoi nous sommes des pécheurs. Savoir se rendre compte de notre culpabilité devant le Seigneur, reconnaître vraiment que nous n'avons rien à offrir à Dieu, nous n'avons rien de bon à lui offrir, et que nous sommes complètement démunis de tout mérite personnel pour être dans la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'on dit toujours que c'est une pure grâce, c'est quelque chose qui est gratuit. Nous n'avons rien mérité. Le Seigneur nous a tout simplement porté à travers la croix de Jésus. Donc, j'aimerais vous lire verset 6 aussi. Il est dit, donc, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Aux humbles ou aux humbles? Aux humbles? Bon, c'est pas grave. J'aimerais conclure. Nous avons vu, voilà comment nous devons nous approcher de Dieu. Nous avons vu aussi des murs de séparation qui peuvent se dresser à cause de peut-être des épreuves que nous pouvons traverser, à cause des soucis de ce monde, à cause du diable qui enlève. Voilà, il y a toutes sortes de ruses qui peuvent exister, mais nous pouvons débarrasser tout cela si nous attachons au Seigneur. Lorsque nous rentrons dans cet état de repentance complète, lorsque nous comprenons vraiment qui nous sommes, c'est-à-dire méritant la mort, la colère de Dieu, mais sauvés par la grâce de Dieu. Et Dieu vraiment nous parle, nous dit que oui, c'est bien d'avoir des moments de joie, des moments de reconnaissance, des moments d'enthousiasme pour le Seigneur, pour moi, mais il faut continuer. Il faut vraiment être ancré, avoir une racine assez profonde dans la parole de Dieu, en Dieu, pour que nous ne soyons pas bronchés, nous ne soyons pas déstabilisés par toutes ces attaques. Ayant un cœur pur, un cœur avec un seul maître, Dieu. Vous savez que le peuple de l'Ancien Testament, ils ont vu le temple détruit, ils ont été déportés à Babylone, ils ont perdu tout espoir à un moment donné. Et puis, dans ce désespoir, Dieu appelle des prophètes et leur apporte des paroles. Et j'aimerais lire quelques versets. Dans Osée 12, verset 6, il est dit « Et toi, reviens à ton Dieu. » C'est ce que le Seigneur nous dit ce matin. « Reviens à ton Dieu. Garde la piété et la justice. La piété et la justice. Et espère toujours en ton Dieu. » Voilà une parole adressée non seulement à son peuple à l'époque de l'Ancien Testament, mais encore aujourd'hui, ce matin, pour nous. Dans Ézéchiel 33, 11, il est dit encore, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ?» On a tendance à penser que les méchants doivent mourir, n'est-ce pas? J'étais vraiment en colère il y a quelques semaines quand, en entendant la nouvelle du terrorisme, les gens qui sont tués innocemment, et j'étais vraiment en colère contre cet homme-là. Lorsqu'il a été attrapé et tué, on a pu discuter de cela avec une de mes voisines. Donc, vous savez que notre ascenseur, c'est très long. Ça dure parfois 5-10 minutes. Donc, en attendant l'ascenseur, on parle des choses. Et puis, la dame commence à parler de ce terroriste qui est mort. Et elle disait que, il a bien mérité. Au moins, il y en a un de moins. Hein? Et que, nous serons un peu tranquilles. Et elle félicitait de tout ce qui s'est passé, et puis elle était rassurée pour ça aussi. Et c'est vrai, j'étais complètement d'accord avec elle d'ailleurs. Mais dans Ézéchiel 33, 11, il est dit, l'Éternel, ce que le Seigneur dit, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. C'est trop tard pour lui, celui qui est mort. Mais s'il était vivant, la volonté de Dieu, c'est qu'il change de conduite pour le pardonner. Parfois, on a l'impression que, voilà, celui, le terroriste qui a tué des gens innocents, des méchants. Et on ne se rend pas compte combien nous sommes pécheurs, nous-mêmes. Vis-à-vis de Dieu. Nous méritons aussi la mort à cause de notre péché. Dieu est pur, saint, trois fois saint, parfaitement saint. Mais l'amour de Dieu dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Il nous accueille malgré notre péché. Il nous accepte et il nous relève. Non seulement il nous accepte, mais il nous relève, il nous élève même. Humiliez-vous et Dieu vous élèvera. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Dieu respecte notre libre arbitre. Si on ne décide pas, il ne bougera pas. Approchez-vous de Dieu et de moi et je m'approcherai de vous. Que cet exercice de purification soit fait aussi tous les jours de notre vie pour expérimenter cette grâce. J'aimerais terminer par ce verset, Romains 8. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Voilà donc, nous devons vivre à travers l'Esprit de Dieu qui est en nous. Nous devons être animés par l'Esprit de Dieu, par le Maître qui est en nous. Que le Seigneur vraiment, que nous puissions faire quelques pas. Nous, si on n'a pas de force, ce n'est pas grave. On n'a qu'à faire quelques pas. Et Dieu fera des grands pas pour venir vers nous, pour nous porter dans ses bras. Que le Seigneur nous bénisse et que nous accompagne aussi, non seulement qu'on puisse avoir vraiment un temps de silence, là maintenant, pour peut-être penser de tout ce que nous avons pu faire, avoir un moment de repentance en pensant l'année 2018, mais aussi projetons-nous vers l'avenir. Hein? Dieu nous réserve plein de bénédictions aussi. Nous avons vu ce matin que Dieu est un Dieu fidèle. Dieu est un Dieu de promesses aussi, qui respecte ses promesses. Et voilà, je vous invite à avoir un temps de silence pour terminer ce temps. Et je terminerai par une prière. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta présence avec nous. Merci Seigneur parce que tu as été toujours présent à nos côtés durant cette année 2018. C'est vrai, parfois nous avons trébuché, tombé. Parfois même nous t'avons oublié aussi. Peut-être parce que nous avions pas assez de racines ancrées en toi. Nous avons peut-être été dans la joie d'accepter, de comprendre ta parole, mais parfois aussi, nous avons oublié de pratiquer cette parole que nous avons comprise. Seigneur, parfois nous nous sommes réjouis de tout ce que nous avons pu faire avec toi, mais parfois aussi, il y a des moments où nous avons été blessés, découragés. Seigneur, tu as dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Qu'on puisse faire vraiment encore quelques pas, qu'on puisse avancer petit à petit pour que tu puisses venir en aide pour nous secourir. Que nous puissions vraiment rejeter ce moi qui est à l'intérieur, qui veut me contrôler, moi, ma vie personnelle, mais qu'on donne toute la place à toi seul, mon Maître. Merci encore pour ta présence, de ce que tu peux faire, tu vas faire dans ma vie personnelle, dans notre vie personnelle. Que ton nom soit loué. Amen.